Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le coronavirus a fait des milliers de morts dans les EHPAD. Pendant plus d'un mois, entre le 11 mars et le 20 avril, à cause du confinement, leurs pensionnaires n'ont pas pu recevoir de proches, sauf aux tout derniers instants de leur vie. Pour mieux comprendre cette situation douloureuse, Code Source donne la parole aujourd'hui à une femme dont les deux parents vivaient en EHPAD à Grenade, en Haute-Garonne, et au directeur de cet établissement, Claudia Prolongeau.
Je suis rentrée en contact avec Didier Carle via l'ADEPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées. Didier Carle en est le secrétaire et en même temps, il dirige l'EHPAD Saint-Jacques à Grenade. Son premier stage dans le milieu remonte à 1993.
Donc, lorsque j'ai fait ce stage, il y avait encore des chambres à 4 et 5 lits, vraiment un retard considérable, mais qui était celui de la prise en soin de l'époque des personnes âgées, qui vraiment m'a amené à me promettre que jamais je ne travaillerai en maison de retraite. Et moins de 2 ans après avoir débuté ma carrière en tant que directeur d'hôpital, j'ai fait mentir cet adage pour définitivement basculer quelques années plus tard sur un statut directeur d'établissement social et médico-social, mais en réalité pour personnes âgées dépendantes.
Geneviève Desjans, elle, a découvert ce milieu beaucoup plus récemment.
J'ai 56 ans, je suis mariée, j'ai 2 filles, je suis chirurgien dentiste à Blagnac, je suis fille unique. Mes parents se sont mariés en 1962. Maman, quand on lui a diagnostiqué son Alzheimer, elle avait 76 ans. Elle est rentrée à l'EHPAD 1 an et demi après.
Comme souvent, à l'origine de cette entrée en EHPAD, il y a une chute, celle du père de Geneviève Desjans.
Maman, avant d'être diagnostiquée Alzheimer, c'est elle qui assumait beaucoup papa parce qu'ils avaient 9 ans de différence et qu'il était quand même diminué physiquement. Après, les rôles se sont inversés. Moi, je la prenais, je m'occupais d'elle, je les amenais faire les courses, mais papa avait beaucoup de mal à reconnaître la maladie, le syndrome d'Alzheimer, et puis après à la gérer, hein, parce que c'était difficile tout de même. On m'a dit aussi, votre maman ne peut pas rester avec votre papa, il faut la mettre en institut, en EHPAD et en secteur fermé. Puis papa est resté tout seul à la maison, ça s'est très vite dégradé, il tombait beaucoup. On m'a fait la fleur de pouvoir le prendre, étant donné qu'il y avait maman à l'EHPAD de Grenade aussi. Il y est rentré pratiquement 6 mois après. Et là, tout de suite, leur vie s'est beaucoup arrangée parce que papa, qui était très très mal, a remonté. Ils se voyaient beaucoup tous les deux. Et ils ont pu passer de très bons moments. Et papa, il était heureux parce qu'il n'avait que le bon quoi, de maman. Et même... elle n'était plus malade, lui, dans sa tête, quoi, je pense.
À cette époque-là, la question des moyens mis dans les EHPAD est presque sur le devant de la scène. Depuis la canicule de 2003, plus de personnel et d'argent sont régulièrement demandés, mais rien ou pas grand-chose ne se passe. Début 2018, une immense mobilisation s'organise pendant plusieurs mois dans les établissements et une grande loi finit par être promise sur le secteur des personnes âgées pour 2019. Mais elle ne vient pas.
On a augmenté à peu près de 10% nos effectifs, alors que globalement, il fallait les doubler. Je dirais que les choses ont avancé, oui, elles ont évolué, oui, mais on est très loin du compte. Et on montre bien à quel point renforcer en effectif les établissements pour faire face au quotidien et puis à ces périodes de crise qui, quelque part, se reproduisent. Parce que l'été prochain, nous risquons d'avoir une violente canicule. L'hiver prochain, nous aurons à nouveau la grippe saisonnière qui, quand même, fait 15 000 morts chaque année. On a eu, en réalité, une multiplication de plans, de rapports. Mais pour l'instant, nous n'avons pas de loi, nous n'avons pas eu de mesures concrètes qui a répondu à l'ampleur du défi qui est le nôtre. Donc il est urgent, en effet, de transformer ces rapports de grande qualité en loi dont on espère qu'elle sera, elle aussi, de qualité.
Le 11 mars, le ministère de la Santé décrète la fermeture temporaire des EHPAD. Jusqu'à nouvel ordre, les résidents ne peuvent plus recevoir de visites de l'extérieur.
On est dans ce qu'on appelle cette fameuse balance bénéfice-risque, avec une première urgence qui était pour nous d'assurer la sécurité physique des résidents. Mais alors, quand on est soignant, quand on est directeur, et notamment, encore une fois, au sein de la DEPA, où tout au long de l'année, nous militons, d'une part pour la citoyenneté des résidents, d'autre part pour dire qu'il faut absolument trouver dans nos structures le juste compromis entre sécurité et liberté. Donc tout au long de l'année, on se bat pour ça, et ce jour-là, tout d'un coup, on arrive à dire, eh bien, on va s'inscrire dans une privation de liberté, et la première liberté qui est de sortir effectivement de sa chambre.
Déjà, le premier confinement où on ne pouvait pas aller les voir, bon, moi j'ai pu les appeler, j'ai parlé avec eux, papa était soucieux de la coupure, je dis mais tu sais papa, on va pouvoir quand même se parler. Maman, elle n'était pas trop consciente encore de tout ça, mais moi je me disais oui, c'est ce qu'il faut faire quoi, hein, de toute façon. Hein.
Nous avons installé les rendez-vous Skype puisqu'on en fait 80 à 90 par semaine, mais nous étions conscients d'une part que nous ne remplacerions pas, nous les professionnels et familles, que pour un certain nombre de personnes, le Skype, cela reste virtuel et que cela ne signifie rien pour certains et que ça ne remplace pas le contact physique et la venue des familles. Ce lien avec les familles, chaque fois que le résident est en capacité de l'avoir, il existe et il est vraiment assez régulier puisque nous arrivons en moyenne à 2 Skype par semaine et par résident qui le veut, qui le peut. Donc on est passé concernant les animatrices de 3 à 6 et bientôt on en aura 7. Voilà. Et c'est pour moi indispensable. Alors se posera la question du financement, mais si on veut pouvoir à peu près voir tout le monde tous les jours, pouvoir parfois passer 10 minutes pour discuter, pour pouvoir sortir sur un balcon simplement, pour donner parfois un puzzle, parfois un coloriage, et puis ensuite gérer les Skype, il fallait absolument recruter. C'est là où on revient sur la question des moyens de nos établissements. Les moyens au quotidien sont insuffisants pour assurer un accompagnement de qualité. Tout moment de crise, eh bien, montre les limites du système et nous ne sommes pas en nombre suffisant pour assumer.
Papa est retombé il y a un mois et demi à peu près. Il est passé aux urgences et tout ça. Il a eu de gros problèmes, un hématome cérébral et tout ça. Donc déjà, il était malade, il n'était pas bien avant le confinement. Il avait du mal à parler, là. Il mangeait dans sa chambre. Maman allait le voir, quand même. Il laissait maman aller le voir. Donc, ils avaient cette première petite vie, tous les deux, qui étaient quand même poursuivis. Le premier Skype que nous avons fait, ils étaient tous les deux ensemble. Donc, ça me faisait du bien, moi, de les voir tous les deux ensemble. J'étais apaisée, déjà. Papa était fatigué, certes, mais maman, comme c'est toujours un brin d'entrain et qu'elle comprend pas tout, elle remuait, quoi. Donc ça m'a beaucoup apaisée.
Et puis ensuite, il y a eu ce qu'on appelle le confinement en chambre, à savoir suspendre toutes les activités collectives, suspendre dès lors les animations, les repas, les regroupements. Et ça, je l'avais anticipé, je l'ai fait 8 jours avant, ce que le ministère ne le recommande très fortement. Essentiellement parce que j'ai eu les témoignages d'un certain nombre de collègues, notamment du Grand Est, qui avait été touché et qui montrait à quel point, à partir du moment où un résident était touché, alors le risque de propagation de l'un aux autres était aussi très risqué.
Maman ne pouvait plus aller le voir. Et là, ils ont organisé des Skype entre tous les deux. Donc moi j'avais des Skype toute seule avec papa, avec maman, et tous les deux avaient des Skype. Et bon, visiblement ça se passait très bien. Après, pour tous les deux, papa ne parlant plus, étant très pas bien et ne réagissant pas trop au Skype, ils leur ont fait des appels téléphoniques entre tous les deux aussi. Maman lui parlait. Puis voilà, j'avais des nouvelles quand même de tous les deux. Quand j'avais les Skype avec papa qui n'était pas bien, qui je voyais bien qu'il déclinait là de jour en jour, il y avait toujours une aide-soignante qui était avec lui quand même, qui essayait de le solliciter et de me raconter un peu ce qui se passait aussi, ce qu'il faisait, qu'il mangeait quand même, qu'il avait de bons moments. Donc c'est vrai que ça me tranquillisait.
Il faut respecter la règle pour assurer la sécurité de l'un comme de l'autre et puis des autres personnes âgées. Après, le Skype était très très apprécié. Alors l'état de santé de l'un était beaucoup plus fragile que de l'autre, et de fait l'un était plus sensible que l'autre au Skype, plus réactif. Mais cette possibilité de se voir, même si on ne peut pas se toucher, si on n'est pas dans la même pièce, ce sont des moments d'émotion intense.
Bien que ça allait de moins en moins. Donc après, le médecin m'a vite appelé en me disant que il fallait que je vienne, hein, que j'étais autorisée à venir le voir pour voilà, parce que vous voyez que ça n'allait pas bien. Et voilà, que vous dire de plus là, ce moment là
Geneviève perd son père le samedi 18 avril au matin. Didier Carl, que j'avais interviewé avant, m'a écrit pour me prévenir. Il n'est pas rentré dans les détails, mais m'a dit qu'il était heureux de ce qui avait pu être fait pour eux.
Ils sont très à l'écoute, je pense, au cas par cas. Donc, on en a beaucoup parlé d'abord avec le médecin, avec M. Carl, de voir ce qui était le mieux pour maman, s'il fallait qu'elle le voie ou pas. On a pensé que oui. Moi, je voulais y aller avec elle pour le voir. Et puis, bon, ils ont pensé qu'il valait mieux que ce soit peut-être d'abord l'aide-soignante qui aille avec elle, une aide-soignante qu'elle connaît bien, qui est toujours avec elle, et que moi, je sois sur place si jamais ça se passe mal. Voilà, donc maman a pu le voir. Et en ayant toutes les protections, bien sûr, parce qu'ils sont très, très, très équipés. Monsieur Carl avait bien anticipé. Moi, j'ai pu voir maman tout de suite après, l'apaiser et voir papa. Voir le médecin aussi, ça a été d'un grand réconfort qu'ils prennent le temps de m'expliquer malgré toutes les activités, les problèmes qu'ils ont, quoi. C'est pour ça que je voulais leur rendre honneur à tous, quoi, hein, parce qu'ils sont vraiment tous super, quoi.
Depuis le début du mois d'avril, des voix s'élèvent en faveur d'un confinement pour les personnes âgées jusqu'à la fin de l'année.
Je trouve que c'est très difficile, on en revient au débat initial, c'est-à-dire protéger les résidents, et pendant des mois, ce confinement, s'il n'est pas adapté, il va être dramatique. C'est depuis quelques jours, depuis un peu moins d'une semaine, qu'on commence quand même à voir voilà, le moral des résidents qui baisse. Alors, c'est la raison pour laquelle nous devons absolument travailler à réussir ce confinement. Et réussir ce confinement passe par quelle adaptation nous lui apportons, évidemment avec l'autorisation et les préconisations des pouvoirs publics. Mais ça signifie quoi? Ça signifie comment on réintroduit des activités collectives en protégeant les résidents, comment on réintroduit de la vie sociale, comment on réintroduit les visites des proches. Voilà, donc si nous n'adaptons pas le confinement, si nous ne l'assouplissons pas et si nous ne permettons pas tout simplement aux gens de vivre à peu près normalement, ça va être un drame. Voilà, donc je ne doute pas que nous réussirons à l'adapter et à le rendre acceptable et vivable par tous, parce qu'on parle des résidents. Il faudrait aussi parler de la souffrance des familles, qui est aussi extrêmement forte, qui ont des baisses de morale, qui ne vont pas bien et qui parfois simplement ont peur de ne pas pouvoir dire au revoir à leurs parents et de ne pas avoir l'occasion de les revoir, même si la dérogation à l'interdiction de visite pour l'accompagnement de fin de vie est acceptée. Une personne âgée peut décéder dans la nuit d'un arrêt cardiaque et n'ayant pas pu le voir pendant plus d'un mois et demi, et ça signifie qu'on n'a pas pu, quelque part, lui dire au revoir.
Aujourd'hui, il y a une animatrice qui m'a envoyé un mail pour me dire, écoutez, on a vu votre maman ce matin, elle est triste, mais elle est bien. Et puisque il n'y a plus votre papa, que vous avez besoin de soutien l'une et l'autre, on va vous faire des Skype tous les jours, si vous voulez, un petit peu. Et voilà, et puis ça me fait chaud au cœur, quoi. C'est vrai que je me sens soutenue, encadrée, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. Et accompagnée, quoi. Et c'est... Si je n'avais pas pu communiquer, si je n'avais pas su tout, si vous voulez, comment tout s'est passé, pas pu voir papa dans ses derniers moments, pas pouvoir accompagner ma maman dans ses moments difficiles, sachant ce qu'elle avait, je l'aurais mal vécu, quoi. Hein. Je pense que ma douleur est atténuée par l'intelligence qu'ils ont eue de tout mettre en place, par le soutien de tout le monde, et ils parlent aussi de l'avenir, donc ça me rassure aussi.
Claudia, on parle de Skype, mais pour être bien clair, Geneviève Desjean, elle a pu voir physiquement son père pour lui dire adieu et aussi sa mère juste après la mort de son père.
Oui, elle a pu voir son père effectivement pour lui dire adieu et elle a pu voir sa mère juste après pour la réconforter. Et ça fait partie des rencontres exceptionnelles qui sont mises en place en cas de fin de vie notamment.
Et son père, on comprend qu'il n'est pas mort du Covid-19.
Non, il n'est pas mort du Covid-19, il est mort de vieillesse, c'était un monsieur âgé, il avait 89 ans, il était tombé un mois avant, donc il n'était pas en très grande forme. C'est un EHPAD qui, pour l'instant, au moment où on parle, il n'a pas été diagnostiqué de cas de Covid-19.
Quand on écoute ce double témoignage, Claudia, on dirait que dans cet EHPAD, la situation va plutôt bien, que le personnel est bien équipé. Ce n'est pas le cas partout, hein.
Oui, bah du coup dans cet EHPAD, il n'y a pas de cas de Covid, ce qui est déjà énormément. Et il y avait aussi un stock d'équipements de protection qui était assez important avant la crise. Mais c'est pas le cas partout. Il y a des salariés dans d'autres établissements qui se plaignent de leurs conditions de travail et qui pensent que cela peut engendrer davantage de décès. Et il y a même une plainte qui a été déposée très récemment contre un établissement parisien parce que des familles soupçonnent qu'on leur cache les décès qui sont liés au Covid-19.
Merci Claudia Prolongeau, merci également à Geneviève Desjean et Didier Carl, ainsi qu'à Romain Gisolme et Marie Bonneau pour leur aide. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été produit par Stéphane Geneste, réalisation Alexandre Ferreira.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.